Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Clémentine Moss, fondatrice et présidente de l'association lyonnaise The Greener Good. Depuis 4 ans, Clémentine et son équipe de bénévoles s'engagent pour la transition écologique. Chaque année, l'association organise un festival qui réunit différents acteurs du changement et qui permet bien évidemment de sensibiliser les citoyens. Lors de ce festival, The Greener Good propose des tables rondes, des ateliers, ainsi qu'un espace marchand où de petites marques et producteurs locaux peuvent se retrouver. Ce mois-ci, l'association publie son guide qui recense les bonnes adresses de la métropole lyonnaise. Cet ouvrage, dont le prix d'achat est libre, est à vous procurer absolument si vous vous apprêtez à visiter la région ou que vous y vivez. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous apprécierez en apprendre davantage sur l'histoire de cette association lyonnaise et sur le parcours de Clémentine, sa fondatrice. Bonne écoute à tous! Bonjour Clémentine.
Bonjour Jeanne.
Donc tu es la présidente et la fondatrice de l'association The Greener Good, qui œuvre à Lyon et dans la métropole lyonnaise depuis 4 ans maintenant.
Tout à fait.
On va bien évidemment revenir sur tout le travail mené par ton association. Avant, est-ce que tu peux te présenter et raconter un petit peu aux auditeurs d'où tu viens, quels sont tes engagements?
Ok, alors je vais essayer de faire un peu court. Donc moi je suis originaire de Marseille, même si en général on me dit que ça ne s'entend pas forcément, mais pourtant je suis 100% pure marseillaise de naissance et je suis arrivée à Lyon en 2012. Donc mon parcours en termes d'études a été assez classique puisque j'ai fait d'abord une classe prépa, puis une école d'ingénieur à Centrale Marseille. Et en fait j'étais sensibilisée depuis longtemps à l'écologie puisque ma maman depuis très longtemps consommait des produits bio. Alors au début je comprenais pas forcément pourquoi, comme c'était j'étais la seule à consommer ce type de produit, ben je me sentais un peu en décalage avec le reste de mes copines et de mes camarades de classe, on va dire.
Je suis passée par là.
Ah, toi aussi, ok. donc au début un peu un rejet de ça, mais bon après finalement je me suis quand même un peu renseignée, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des raisons valables à ces choix. Et en fait, après, c'est même moi-même qui ai évolué dans cette démarche, puisque quand j'étais au lycée, je me rendais compte que au niveau cosmétique, etc., il y avait aussi certains sujets, que c'était pas forcément bon ce que je pouvais mettre sur ma peau. Donc là, j'ai décidé aussi de passer à des cosmétiques bio, naturels. Donc à l'époque, comme on ne trouvait pas à tous les coins de rue, il n'y avait pas des magasins bio partout, je les commandais en ligne sur un site. Et voilà, petit à petit, en fait, mes engagements se sont poursuivis, se sont développés dans ma vie perso, en fait. Et quand j'étais en école d'ingénieur, il y avait beaucoup d'associations, et c'est là que je me suis éclatée, parce qu'il y avait une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières. En fait, on était plutôt l'association écolo du campus, donc là j'ai pu m'investir là-dedans et mettre en place un système de panier bio sur le campus. Donc ça, voilà, c'était ma petite satisfaction à l'époque. Et puis je me suis aussi engagée dans une association qui organisait le forum de rencontres entre étudiants et entreprises, voilà, pour trouver des stages, un premier emploi. Et en fait du coup c'est vraiment à ce moment-là où j'ai touché au côté événementiel. Et j'ai découvert que en fait, ça me plaisait bien d'organiser des événements, de faire se rencontrer les personnes, voilà, les structures et puis le grand public. En arrivant à Lyon, donc en 2012 j'ai commencé à travailler, et en fait pour moi c'était assez distingue en fait mes engagements. Enfin, d'un côté j'avais cette cause écologique qui m'animait, et puis de l'autre j'avais le travail, mais j'avais pas, enfin je séparais bien les deux. Mais quand même petit à petit je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus d'enjeux, que bah il y avait de plus en plus de, voilà, de problèmes, qu'on se rendait compte que niveau environnemental, climatique, etc., ça n'allait pas du tout. Donc petit à petit ça mûrissait dans ma tête, et je me disais que J'avais envie d'aller plus loin et de pas juste rester à mon niveau, voilà, juste à ma propre consommation. Et j'avais envie d'aller plus loin, d'autant plus qu'à Lyon, à cette époque, c'est-à-dire c'était aux alentours de 2015-2016, je me rendais compte qu'il y avait plein de personnes qui commençaient à monter des commerces, des marques, etc. et qui galéraient un petit peu et qui avaient vraiment des super projets. Donc je m'étais dit, mais c'est tellement dommage, c'est génial ce qu'ils font, ils mériteraient d'être plus connus. Donc c'est là que, voilà, enfin j'ai... Il y a un peu tout ça qui a tourné dans ma tête, cette prise de conscience, le fait que je rencontrais des personnes... Le fait aussi, tout simplement, que je me sentais en décalage avec mes collègues de travail, qui n'étaient pas du tout dans cette démarche-là. Et que...
Toi, tu travaillais dans l'ingénierie.
Voilà, c'est ça. Donc, en gros, j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'ingénierie. Alors d'abord, j'étais en bureau d'études dans les transports ferroviaires et ensuite dans les transports urbains. Donc, je travaillais sur des projets de tramway, de bus et d'études de circulation, voilà, pour faire court. Mais voilà, donc un petit peu tout ça a mûri, et puis c'est pour ça que je me suis dit en 2016, bah tiens, si je crée un événement sur le thème de l'écologie pour montrer qu'en fait chacun dans notre vie quotidienne, on peut aussi changer notre mode de consommation, et puis montrer que c'est pas réservé que à des bobos, à des hippies, etc., mais qu'on peut tous s'y mettre, que c'est assez accessible à tout le monde, et qu'il y a des belles découvertes à faire localement.
Donc au départ, c'était vraiment juste l'idée d'organiser un événement ponctuel pour rassembler ces bonnes initiatives. Mmh. Maintenant, 4 ans après, c'est ton travail à plein temps, depuis l'année dernière.
Oui, j'ai quitté mon travail cet été, en fait.
Voilà, tu as quitté ton travail cet été pour te consacrer à ton association.
Mmh, tout à fait.
Alors, quand tu as créé ce premier événement, comment tu t'y es pris? Et ensuite, j'aimerais aussi qu'on parle des bénévoles qui t'aide, parce que ça, c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder depuis longtemps au micro. Et c'est la première fois, en fait, que je reçois une association.
Ok, chouette.
Donc, c'est super. Et voilà, donc j'aimerais vraiment qu'on parle des bénévoles aussi. Mm-hmm. En fait, j'avais reçu Paula de Green is the New Black, qui est un festival qui est organisé à Hong Kong et à Singapour. Mais elles ont aussi quand même toute une partie entreprise où elles vendent des services à des grandes entreprises. Donc, elles ne sont pas purement dans l'associatif.
Ok.
Donc, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que je trouvais les deux approches assez complémentaires. Donc, si on revient... En 2016, tu es toute seule, tu as cette idée, tu connais quelques entrepreneurs, quelques producteurs, j'imagine, bio, voilà, comment tu t'y prends?
Donc, ça allait très très vite. Au final, effectivement, comme tu le disais, c'est parti de l'idée d'un événement et à la base, il n'y avait pas d'association. Et comme... En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour cet événement-là, j'avais envie vraiment de donner de l'inspiration aux personnes. Et notamment, j'avais envie de rassembler les personnes qui, moi-même, m'inspiraient. Et en fait, je trouvais de l'inspiration où ? Sur le web. Parce que, comme je te le disais, autour de moi, tout ce qui était collègues, famille, amis, etc., Lyon, en tout cas, n'était pas du tout dans cette démarche-là. Donc, en fait, je trouvais sur le web des blogs, des chaînes YouTube, etc., qui m'inspiraient, où je me disais, il y a d'autres personnes qui sont dans cette démarche-là. Et en fait, j'ai commencé à contacter quelques personnes qui m'inspiraient en leur disant, j'ai l'idée de créer un événement à Lyon là-dessus, est-ce que ça vous intéresse? Et là, ma grande surprise, les gens ont dit, je viens. Et j'étais hyper étonnée et touchée que ces personnes me fassent confiance alors que j'avais rien fait avant, j'avais aucune association encore, enfin il n'y avait aucune structure, il n'y avait rien, et du coup je me suis dit waouh, c'est assez fou, donc il y a vraiment quelque chose à faire, parce que ces personnes avaient envie de venir, avaient envie de se rencontrer entre elles, de se rassembler, de rencontrer les personnes, donc j'ai créé l'association après coup, enfin quelques semaines après avoir lancé l'idée, l'association The Green Are Good, et donc ce premier événement c'était orienté autour de conférences, d'ateliers pratiques, de tables rondes, un peu sur tous les sujets de la vie quotidienne, l'alimentation, les déchets, le volet cosmétique, les vêtements, etc. Et donc, au final, il n'y avait pas tant d'acteurs que ça. Il y avait quelques acteurs qui étaient venus parler de leur projet. J'avais mis en avant un peu 1083. Il y avait Sabrina de Koufou. Il y avait... Laetitia du Corps la Maison l'Esprit, que tu connais peut-être. Voilà, il y avait plusieurs personnes qui venaient de toute la France en fait, qui sont venues à cet événement et qui a bien marché. Au final, les gens étaient ravis de se retrouver dans une ambiance conviviale, détendue, de se motiver aussi et de repartir chez eux avec plein de nouvelles idées.
C'était sur plusieurs jours ?
C'était sur une seule journée. Voilà, donc c'est un événement qui a rassemblé 150 personnes. Et tu parlais du bénévolat tout à l'heure, donc effectivement, c'est un événement que j'ai conçu seule. Après, il y a des personnes quand même qui sont venues m'apporter des compétences que je n'avais pas, c'est-à-dire des compétences un peu en logistique, en recherche de partenariat, en conception d'un site web. Enfin voilà, c'était très rudimentaire, mais au final, voilà, c'était quand même des aides très appréciables pour mener ce projet. Donc je me menais en parallèle de mon travail. Et ce qui a vraiment ensuite déclenché l'engagement bénévole dans l'association, c'est vraiment cet événement-là, parce qu'à la fin de l'événement, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « ça m'intéresse, j'ai envie d'être bénévole dans mon association », et c'est à partir de là qu'il y a vraiment une équipe qui a commencé à se constituer, et qui est en constante évolution, bien sûr, parce que c'est le principe des associations et du bénévolat, c'est-à-dire que il y a tout le temps des nouveaux arrivants, il y a des gens qui partent parce qu'ils ont plein de projets de vie différents, mais enfin c'est hyper riche parce qu'il y a eu plusieurs dizaines de bénévoles qui sont déjà passés dans l'association et aujourd'hui on est une bonne trentaine à être engagés.
Et puis vous pouvez mener des réflexions ensemble,
Ouais, tout à fait.
Hyper intéressant, c'est très intéressant de développer le projet seul évidemment, mais tu as besoin aussi, j'imagine, de ces bénévoles pour grandir, pour avoir d'autres idées.
C'est ce qu'on encourage aussi dans l'association, c'est-à-dire que il y a des bénévoles qui étaient attirés par certaines thématiques, et je pense à Laure qui est aussi une créatrice lyonnaise de mode éthique, parce qu'elle crée des vêtements à partir de chutes de tissu. Et en fait, quand elle est arrivée dans l'association, elle a voulu vraiment développer ce côté mode éthique en organisant des balades à la rencontre de commerce, en organisant des défilés de mode éthique, et donc... Voilà, elle a vraiment impulsé ce côté-là et du coup, justement, on est vraiment à l'écoute des envies de chacun parce qu'après, dans l'association, on peut aussi développer les envies des uns et des autres, si c'est en cohérence, bien sûr, avec l'objet de l'association.
Et donc, l'objet, quel est-il, précisément ?
Donc, l'objet, c'est de sensibiliser, en fait, les habitants, donc surtout de la métropole de Lyon, aux impacts de nos modes de vie, mais surtout aux manières qu'on a de vivre une vie... plus éco-responsable, plus sobre, tout en étant une vie heureuse et épanouie. Et l'objectif aussi, c'est de mettre en lumière toutes les alternatives qui existent, que ce soit des commerces ou des associations locales qui vont œuvrer pour nous proposer des modes de vie ou des produits ou des services éco-responsables.
Donc à la fin de cet événement en 2016, est-ce que tu as tout de suite eu l'envie et l'idée de recommencer l'année qui suivait ?
Oui, en fait, tout s'est enclenché assez naturellement. C'est-à-dire que comme il y avait un engouement, à la fois les invités qui avaient participé et les participants eux-mêmes avaient vraiment envie de continuer dans cette dynamique-là. Donc en fait, en 2017, on s'est un peu lancé un défi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, on va faire deux événements. On va en faire un à Lyon, un à Paris. c'était un petit peu fou, mais on l'a fait. Donc... C'est-à-dire que l'événement s'est développé en 2017, c'est là qu'on a commencé à mettre en place des stands lors des événements, parce que lors du premier événement, il y avait juste eu des stands d'associations locales, mais là, on a voulu... comme les personnes, en fait, nous disaient « Ah ben, c'est bien de parler de sac à vrac, de lingettes démaquillantes, etc. » Mais concrètement, on aimerait bien les acheter. Donc, on s'est dit qu'on allait intégrer cet aspect-là. Donc, on a commencé à Paris en juillet 2017. On avait organisé, en fait, un peu le même type d'événement avec conférences, ateliers plus stands. Qu'on a ensuite encore agrémenté en octobre de la même année avec la première édition de notre événement au château de Montchat, dans le 3e arrondissement de Lyon. Où là, du coup, ça prenait une autre ampleur parce qu'on passait d'espace de coworking assez grand à un château. Donc déjà, c'est plutôt chouette. Et en fait, de là, ça s'est enclenché. C'est-à-dire qu'ensuite, en 2018, on a passé l'événement sur deux jours. Et puis, donc là, on s'est recentré sur Lyon parce que c'est vrai que c'était quand même compliqué d'organiser à Paris, à distance, même si ça s'était bien passé, hein, l'événement avait été un succès, mais c'était assez lourd, sans équipe sur place. Donc déjà, il y a largement de quoi faire à Lyon. Et depuis, cet événement en fait, a beaucoup grandi, puisque la dernière édition a fait 3000 participants. Donc là, il y avait une cinquantaine d'exposants, une quinzaine d'associations, une soixantaine de conférences et d'ateliers pratiques. Donc ça s'est vraiment beaucoup développé. Et aussi, depuis l'année dernière, on collabore avec d'autres grands événements, comme le Printemps des Docs, qui est un salon orientée mode de vie, art de vivre, déco, maison, mode, etc. Et depuis l'année dernière, on crée avec eux un hall Green Life. Donc, on met en place une cinquantaine d'exposants ainsi qu'un programme d'ateliers et de conférences. Et du coup, pour nous, c'est très chouette parce que ça nous permet de toucher un autre public qui n'est pas forcément un public déjà sensibilisé. Et puis, c'est un événement assez important vu que l'année dernière, en 2019, c'était 12 000 participants. Donc, c'est pas rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que au final, ça se développe assez rapidement. Enfin, toujours dans l'objet que je t'avais donné tout à l'heure. Donc, vraiment de sensibiliser, de mettre en lumière les manières de vivre différemment. Et puis, voilà, que ce soit par nos propres événements ou par des collaborations avec d'autres grands événements, voilà, on poursuit ce côté événementiel qui nous tient à cœur.
Mais pas uniquement, puisque en parallèle, vous avez également développé donc, sur votre site internet une carte interactive où les consommateurs ou même les touristes de passage à Lyon peuvent retrouver toutes les bonnes initiatives locales. Et vous travaillez depuis plusieurs mois sur la création d'un guide et la rédaction surtout d'un guide, mais on en parlait avant d'enregistrer, qui est plutôt un livre de 130 pages.
228. Oula, je me mélange. 228 pages. Pardon.
228. Ouais. Donc, un gros pavé. Comment ça s'est fait? Pourquoi tu as eu envie de passer au support papier, alors que vous aviez déjà la carte interactive?
Donc, comment ça s'est fait? En fait, au fur et à mesure de nos événements, parce qu'on a ces gros événements, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que aussi, tous les mois, on organise des événements plus petits, d'une quarantaine de personnes, sur des thématiques particulières. Donc, en fait, au fur et à mesure, on rencontre de plus en plus de personnes et d'acteurs locaux engagés sur plein de thématiques. Et on découvre plein de lieux aussi. Et donc, il y a 2 ans, en discutant avec une personne assez proche de l'association, on s'est dit, tiens, pourquoi on mettrait pas, on référencerait pas tous ces lieux et tous ces acteurs qu'on connaît sur une carte pour que l'info soit accessible au plus grand nombre. Donc voilà, c'est parti comme ça, à une soirée, on en discutait. Et finalement, on a concrétisé le projet. Quelques mois plus tard, on a créé cette carte interactive sur notre site. C'est donc une carte qui recense des restaurants bio, des bars, des magasins de vêtements,
des épiceries,
des friperies aussi, parce qu'on est beaucoup sur le côté aussi seconde main, occasion. Donc on a lancé cette carte en novembre 2018. Et en fait, en parallèle, ce qui s'est passé, c'est que on est aussi très amis avec une association lyonnaise qui s'appelle Antiela, qui aide à accompagner les engagements citoyens, donc qui met en valeur aussi les associations locales. Et donc eux, ils sortent eux-mêmes un guide en fait tous les 2 ans avec toutes les associations engagées pour l'écologie et la solidarité sur le territoire lyonnais. Et en fait, ils ont eu beaucoup de demandes de personnes qui disaient qu'ils voulaient retrouver aussi des commerces et des épiceries, mais c'est pas en fait leur cœur de métier, on va dire. Et du coup, ils nous ont dit pourquoi vous sortiriez pas ce guide, parce qu'il y a une demande en fait des personnes d'avoir un guide pour consommer différemment. Et puis du coup, là, l'idée a un peu fait son chemin et on s'est dit en fait oui, on a tellement de matière que on va essayer de lancer ce guide. Et puis on a travaillé dessus d'arrache-pied pendant un certain nombre de mois. Et puis le guide va sortir dans quelques semaines, donc on est très contents.
Quand tu dis « on a travaillé dessus », de qui tu parles?
Donc il y a une sacrée équipe qui a travaillé dessus. Il y a des personnes qui sont dessus depuis 2 ans en fait. C'est-à-dire il y a eu à la fois des personnes qui ont travaillé au sein de groupes d'étudiants au début un petit peu pour formaliser le projet, faire une étude de marché, regarder un petit peu les besoins. Il y a eu un premier jet en fait d'un pré-guide qu'on a sorti il y a un an et demi où on avait commencé à rassembler quelques adresses. En fait, il y a plein de personnes qui ont rédigé à un moment ou à un autre. Et puis là, ces derniers mois, ça s'est vraiment intensifié. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui ont été en charge de chapitres du guide. C'est des bénévoles, plus il y a aussi maintenant des volontaires en service civique qui sont dans l'association et qui ont travaillé dessus. Donc, il y a eu des personnes qui ont pris en charge des chapitres, qui ont écrit des parties pédagogiques pour expliquer les enjeux du numérique, pour expliquer les enjeux de l'alimentation, les enjeux de la mode, des vêtements. Enfin, voilà, on a des parties pédagogiques plus des personnes qui ont rédigé des paragraphes pour présenter chaque adresse et chaque marque du guide. Voilà, donc au final, il y a une bonne quinzaine, vingtaine de personnes qui ont travaillé dessus, que ce soit pour voilà, rédiger un petit peu, relire, faire des illustrations. Enfin voilà, au final, c'est un travail de fourmi, vraiment, mais qui donne maintenant un résultat que je trouve très très chouette.
Et qu'on a hâte de découvrir, ouais. Qui sera disponible où ?
Alors, l'idée, c'est de le proposer à prix libre. Donc, on va proposer à un prix libre conseillé 7 euros pour qu'on rentre dans nos frais. Il sera distribué lors de, bah, des nombreux événements qu'on a tout au long de l'année. Il sera également distribué à notre local, donc qui est dans le 3e arrondissement, où il y a des permanences, donc les gens pourront aussi le retrouver là. Et puis, on a un certain nombre de boutiques partenaires, d'épiceries vrac, etc., qui se sont proposées déjà pour le diffuser. Et puis là, bah, notre travail des prochaines semaines, c'est de recontacter en fait toutes les adresses du guide pour leur proposer d'être un point de distribution de celui-ci.
Sachant que là, à l'heure où on enregistre ce podcast, la campagne de financement participatif s'est achevé. Mmh. Ça a été un grand succès.
Oui.
Et donc, vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite.
Exactement.
L'impression et la diffusion du guide.
C'est ça. Donc là, le guide est entièrement rédigé. Il vient d'être mis en page. Donc là, notre nouvelle étape, c'est de le relire entièrement. Vérifier qu'il n'y a pas des petites coquilles, voilà, que tout est cohérent. Et puis, prochaine étape, on l'envoie à l'imprimeur et il imprime nos 4000 exemplaires.
4000.
C'est ça. Ça va nous faire 3 palettes à stocker. Ça va qu'on a un local avec une cave qui permet.
Combien d'adresses est-ce que vous avez recensé ?
Oui, très bonne question. On a recensé 460 adresses, que ce soit, comme je te disais, des restaurants, des bars, des épiceries, des magasins de déco, d'ameublement, de vêtements, de cosmétiques. Enfin, il y a vraiment tout, et de numérique aussi.
Et donc toi qui, bah, qui a commencé à vraiment t'intéresser à ces problématiques depuis longtemps et qui, on va dire, connaît bien la situation de Lyon depuis 2016, comment ça a évolué à Lyon ? Qu'est-ce que tu as observé ?
Ce que j'ai observé, c'est que durant ces 3-4 dernières années, il y a vraiment une explosion de, bah, de, des commerces et des marques. C'est-à-dire que je pense que si on avait fait le même guide il y a 4 ans, clairement, il aurait été peut-être... il aurait fait... on aurait peut-être 100 adresses, là on en a 460. Et c'est fou parce qu'en fait, tous les jours, on entend parler d'une nouvelle épicerie zéro déchet qui va ouvrir, d'une nouvelle marque de vêtements. Enfin, ça bouillonne en fait. Alors je pense que c'est assez typique de Lyon parce que Lyon est très très engagé côté écologie. Donc je pense que par rapport à d'autres villes, en tout cas, je ressens qu'il y a vraiment... ce foisonnement d'initiatives, hein, que ce soit des associations, des marques, des commerces. Donc je ressens ça. Et puis aussi, ce que je ressens, c'est que bah, les gens sont de plus en plus concernés et s'y mettent aussi. Donc je te parlais par exemple tout à l'heure de mes collègues de travail qui au début étaient complètement étrangers à cette démarche. Bah, au final, maintenant, ils sont tous venus à mes événements déjà. Mais je sens qu'ils sont de plus en plus sensibilisés. Et bon, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, mais je vois qu'au final, des gens qui étaient même réticents à la base commencent à se rendre compte que c'est possible, c'est accessible à tout le monde, c'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Et puis, c'est aussi nécessaire au vu des enjeux climatiques actuels.
Donc, tu as l'impression que ça s'est bien démocratisé ?
Quand même, ouais. Après, je vais pas dire que c'est... la majorité de la population qui partage ces causes-là et qui consomme différemment, c'est pas vrai. Enfin, c'est juste que ça prend de plus en plus d'ampleur, mais on est encore très minoritaire au final. Même si voilà, à Lyon, il y a quand même une grosse tendance, peut-être dans Lyon intramuros, mais on voit que dans les villes environnantes, c'est pas encore du tout le cas. Donc il y a encore beaucoup de travail. Là, on est vraiment au tout début de notre travail.
Est-ce que vous avez fait un travail de sensibilisation aussi auprès des écoles ?
Alors, pas encore. En fait, ce qu'on a fait pour l'instant auprès des enfants, c'est qu'à nos événements, donc notamment au festival, le Green Air Festival qu'on organise tous les ans, on a des animations pour les enfants, un espace enfant dédié avec des activités. Il y a 2 ans, on a fait une édition spéciale parents-enfants, donc il y avait des conférences et des ateliers dédiés à ce sujet. Et là, on commence à être sollicité par des écoles. Donc là, à la fin du mois, donc on est en mars 2020, à la fin du mois, on va intervenir dans des écoles à Lyon pour leur présenter nos actions et puis voir, proposer aussi des projets aux élèves pour qu'ils nous donnent un petit coup de main sur certains volets de l'association. Donc voilà, on commence doucement, mais pour l'instant, on est plutôt orienté vers un public adulte.
Tu aimerais, toi, travailler davantage avec les enfants, essayer de les sensibiliser, ou tu as l'impression que c'est un autre métier ?
Ouais, moi, j'aimerais bien. Et puis, dans l'association, maintenant, on est beaucoup de bénévoles, et je sais qu'il y a aussi pas mal de bénévoles qui sont aussi sensibles à l'éducation des enfants et à leur sensibilisation à ces enjeux. Donc, je pense que déjà, dans l'association... Ça motiverait déjà pas mal de personnes et puis je pense que ouais on peut au moins s'y essayer et puis voir ce que ça donne.
Je pense que c'est primordial.
Tout à fait.
Alors si on revient à ton quotidien en tant que présidente d'association, à quoi ressemble une journée pour toi ?
Alors c'est une question super difficile parce que j'ai des semaines qui changent tout le temps, j'ai aucune journée type. Parce que mon quotidien, en fait, tout au long de l'année, on a pas mal d'échéances au final avec des gros événements, là, avec le guide dont on a parlé. Donc, là, dernièrement, j'étais à fond sur rédaction du guide, relecture, aussi coordination du projet avec l'imprimeur, avec les personnes qui mettent en page, avec tous les partenaires financiers, etc. Donc, voilà, donc il y avait beaucoup de coordination de projet. Je mets aussi beaucoup la main à la pâte parce que moi j'aime bien ça, de participer concrètement à nos actions, à organiser les événements, etc. Je dois aller démarcher des partenaires, faire des demandes de financement, gérer les demandes de subventions auprès des organismes publics, représenter aussi l'association donc, auprès des médias, auprès des élus, auprès des différentes entreprises partenaires qu'on peut avoir. C'est gérer aussi le quotidien de l'association, c'est gérer l'équipe, parce que maintenant on a une salariée à temps partiel et 4 volontaires en service civique, plus tous les bénévoles, donc c'est aussi beaucoup de coordination de personnes, c'est recruter aussi les bonnes personnes, gérer tout le quotidien, au final il y a quand même, c'est comme une entreprise, hein, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale, donc il y a aussi tout le côté... gérer les finances, gérer l'administratif, ça ne s'arrête pas. Et puis en dehors de ça, donc ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai pas que l'association dans mon quotidien, parce que je donne aussi des cours depuis l'année dernière. J'enseigne dans une école d'enseignement supérieur la conception et l'organisation d'événements. Et puis j'interviens aussi dans des écoles d'ingénieurs, ce qui est assez rigolo parce que j'y interviens depuis que je suis plus ingénieure dans ma vie professionnelle. J'ai fait des interventions aux mines de Saint-Étienne, à Centrale Marseille, qui est mon école qui m'a formée. Et depuis quelques mois, j'ai aussi rejoint le cœur d'équipe de l'Institut Transition à Lyon. C'est un institut qui est en train de se monter et qui va accompagner les personnes souhaitant évoluer professionnellement dans les métiers de la transition écologique et solidaire. Je participe aussi à la création de cet institut. Donc c'est aussi une autre aventure entrepreneuriale. Voilà, donc je partage mon temps entre tous ces projets.
Donc, tu es bien occupée.
Ah oui, je suis bien occupée, c'est sûr.
Et cet institut, il va s'adresser à qui ?
Alors, il y aura plusieurs types de publics. En fait, il va s'adresser aux personnes qui ont déjà eu une expérience professionnelle, qui souhaitent mettre leurs compétences au service de la transition, c'est-à-dire soit changer d'orientation suivre... Enfin, je vais revenir après peut-être sur les différents cursus, mais on va dire, voilà, ces personnes qui souhaitent se réorienter dans les domaines de l'économie sociale et solidaire, la transition, ou des personnes qui sont en entreprise et qui souhaitent, au sein de leur entreprise, faire changer les pratiques.
Ah, intéressant.
Voilà. Ou ça peut être aussi des personnes qui ont envie d'acquérir des compétences sur certains domaines spécifiques, ensuite, pour nourrir aussi leurs compétences et leur vie professionnelle. Donc, en fait, ça va... se concrétiser en 3 parcours. En fait, il va y avoir un parcours sur 1 an avec à la fois 150 heures de cours théoriques et pratiques plus un mémoire de recherche que devront faire les apprenants dans l'objectif en fait de creuser un sujet qui les passionne, qui leur tient à cœur, et d'aller aussi à la rencontre des personnes qui sont dans ce domaine-là aussi pour se créer un réseau, pour rencontrer les personnes locales qui sont engagées dans ce domaine. Et puis, il va y avoir aussi des modules, donc comme je te disais, de 18 à 36 heures qui seront plus focalisés sur certains aspects, sur l'artisanat ou la mode éthique, sur l'histoire de la transition. Enfin, il y aura des côtés vraiment voilà, philosophiques et puis des côtés plus pratiques. Et puis, il y aura un parcours aussi pour les personnes qui souhaitent faire évoluer leur pratique professionnelle. Voilà, donc pour en savoir plus, il y a le site internet qui est bien complet, c'est instituttransition.org, transition au pluriel, qui détaille en fait ces trois parcours et l'Institut donc ouvrira ses portes en septembre 2020.
Super. Voilà. C'est complémentaire en fait à l'action de The Greener Good.
Mm-hmm. Ouais, tout à fait, effectivement. Donc là, c'est aussi amener les personnes justement à incarner la transition dans leur vie professionnelle. Donc c'est à la fois, nous, on est sur le côté perso, c'est-à-dire comment on fait dans notre vie quotidienne pour être dans la transition, être dans un mode de vie écologique. Et puis là, ce sera dans le côté pro. Donc ouais, c'est tout à fait complémentaire.
Ça fait sens, d'autant plus que toi, tu as suivi une formation d'ingénieur à Centrale Paris.
Centrale Marseille.
Centrale Marseille, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'avais Centrale Paris en tête. À Centrale Marseille. Et que finalement, tu n'as pas suivi cette voie, t'as pas suivi ce pourquoi t'as été formée.
Tout à fait.
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose vers quoi on va tendre de plus en plus, des gens qui auraient été formés et qui finalement vont se reconvertir, qui vont devoir changer de profession?
Oui. Je le vois très clairement parce que, comme je te le disais, j'interviens dans des écoles d'ingénieurs notamment. Et du coup, j'ai l'occasion de discuter avec les élèves et je me rends compte vraiment de leurs grandes interrogations, leurs grands questionnements que moi, je n'avais pas à l'époque. Enfin, moi, c'était il y a 10 ans, on va dire, que j'ai fait mes études. Et à l'époque, comme je disais au début, voilà, il y avait le métier côté pro. Après, il y avait les engagements dans la vie perso, mais c'était quand même séparé. Alors que là, je me rends compte qu'il y a quand même un mal-être. Les personnes, les étudiants me demandent souvent, mais... En fait, on nous forme pour aller travailler dans des grands groupes industriels, je sais pas, chez Total, chez Renault, etc. Et au final, est-ce que c'est vraiment ces entreprises-là qui vont construire le monde de demain ? Enfin, il y a énormément d'interrogations. Donc déjà, en études, les personnes se posent des questions. Alors après, je me rends compte aussi là avec le recul au bout de quelques années. Donc j'étais diplômée en 2012. Moi, j'ai complètement, effectivement, bifurqué, changé de trajectoire. Mais je me rends compte, maintenant, en étant dans cet écosystème lyonnais d'acteurs engagés, mais en fait, que tous les gens que je rencontre, dont je t'ai parlé, qui ont créé des marques, des commerces et tout ça, c'est que des gens, en fait, qui avaient un bac plus 5, qui avaient fait des études dans le commerce, dans l'ingénierie, etc., qui se sont reconvertis. Et donc, ouais, c'est un phénomène qui prend énormément d'ampleur.
D'où l'importance aussi d'informer les élèves. Enfin, je pense, et d'inscrire ça dans les parcours éducatifs pour éviter aussi un mal-être. Parce que ça peut être assez mal vécu pour une personne et pour un jeune qui se lance dans la vie active de se lancer dans une voie professionnelle qui soit complètement dissociée de ses convictions ou très éloignée de ses convictions personnelles. C'est assez difficile à vivre.
C'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi parce qu'au bout de quelques années... de métier d'ingénieur, je me disais mais en fait c'est pas pour moi, je m'y retrouve pas, mais j'ai fait quand même 5 ans d'études, on va dire gratuitement aux frais de la société, parce que l'école d'ingénieur c'est comme l'université, enfin en tout cas la mienne c'était une école publique, donc en fait j'avais tout ça qui tournait dans la tête, je me disais mais est-ce que je fais pas fausse route, et puis les organismes aussi du style l'APEC, Pôle emploi et tout ça sont pas très fans non plus des changements de parcours, ça je l'ai constaté aussi. Donc pour l'instant, ouais, c'est pas encore... la société l'a pas encore vraiment accepté, donc je comprends tout à fait que des étudiants se posent la question. Et moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est déjà de prendre ce qu'ils ont à prendre dans les entreprises, parce que moi, je regrette absolument pas d'avoir eu une expérience dans l'entreprise, vu que c'est ça, en fait, qui m'a appris... Ça veut dire quoi travailler, comment on s'organise, c'est quoi les outils de travail. Donc, j'aurais jamais pu créer l'association en sortie d'études. Donc, c'est pour ça que je leur dis, apprenez déjà au sein des entreprises ce que vous avez à apprendre. Et après, si vous avez envie de construire quelque chose, allez-y, mais vous serez un peu plus outillé qu'en sortie d'école. Et puis, c'est pas grave non plus de passer quelques années dans une entreprise, même si on partage pas à 100% les valeurs, les convictions de cette entreprise-là, c'est pas grave, ça fait pas d'eux une mauvaise personne et ils vont pouvoir ensuite se réorienter. Il y en a plein qui le font et c'est possible. Donc en fait, l'important, c'est de leur montrer que c'est possible et que ce domaine-là de l'économie sociale et solidaire existe. Parce que que je me suis rendu compte en intervenant en école qu'en fait on parle d'ESS, d'économie sociale et solidaire, mais les étudiants ne savent même pas ce que c'est en fait. Donc ils se disent j'ai envie d'avoir un métier avec du sens, mais ils savent même pas qu'il y a tout un domaine de l'économie qui existe et qui peut peut-être leur apporter un métier satisfaisant et qui réponde à leurs valeurs et à leurs attentes. Voilà, donc j'essaye aussi de faire ça quand je vois des étudiants, de leur montrer un petit peu tout le panel des possibles et qu'ils peuvent effectivement avoir un métier en accord, mais ils peuvent, si leur métier peut-être au départ ne leur convient pas, ils peuvent aussi s'engager dans des associations, enfin ils peuvent aussi s'engager de différentes manières, quoi.
Bien sûr, dans des associations ou même en interne au sein de leur entreprise, en essayant de proposer de nouvelles idées, en essayant de rencontrer les personnes qui seraient en mesure de prendre les décisions, de faire évoluer.
Oui, ils peuvent c'est faire hyper évoluer important. En interne, tout à fait. Oui, il faut aussi qu'il y ait des personnes convaincues dans les entreprises
pour
évoluer les entreprises en interne, ça c'est clair.
Selon toi, le rôle des associations aujourd'hui, il est primordial ? Pour faire changer la société, pour faire évoluer, pour aider à la prise de conscience.
Oui, après, pour moi, en fait, ce qui est primordial, c'est d'avoir vraiment des actions à tous les niveaux, au sein des entreprises, des écoles, des associations. Et effectivement, ce dont je me rends compte à Lyon, c'est qu'il y a énormément d'associations qui agissent vraiment dans plein de domaines. Et à la fois, ça a un rôle de sensibilisation, de faire changer les comportements, mais aussi ça a un rôle social, parce que les gens qui s'engagent, donc moi je vais prendre l'exemple de The Greener Good, mais déjà les gens qui viennent chez nous, ils apprennent énormément de choses, donc déjà eux-mêmes ça les fait changer de comportement, changer de consommation, apprendre beaucoup de choses sur le domaine de l'écologie et la transition. Et puis ça crée énormément de liens en fait entre les personnes, entre associations, entre bénévoles, entre les bénévoles et les bénéficiaires de nos actions, les participants à nos événements, les commerces qu'on va mettre en valeur. Donc en fait c'est vraiment bénéfique, toutes ces interactions qu'on crée localement en fait, parce que pour moi l'échelle locale aussi est très importante dans la transition.
Ouais, elle permet plus d'impact, plus de changement.
C'est ça, c'est qu'en fait, on peut aussi agir à notre échelle. Nous, on est vraiment sur le côté aussi consommation, donc consommer local, consommer responsable. Ça a des répercussions très concrètes, c'est-à-dire qu'on va faire perdurer ces initiatives, on va faire en sorte, si on consomme bio, de préserver les sols, la biodiversité. Donc en fait, ça a un impact concret ici. C'est comme à Lyon, il y a un fort développement du vélo. Ça a un impact direct sur la qualité de l'air. Donc pour moi, en fait, ces actions-là, ça passe pas forcément. Ça passe bien sûr aussi par des actions politiques et des actions par les entreprises, mais les choix qu'on fait au quotidien, ça peut avoir un impact aussi direct sur notre qualité de vie.
Tu l'as constaté, l'amélioration de la qualité de l'air ces dernières années ?
Non, forcément, malheureusement, à Lyon, il y a beaucoup de pics de pollution, que ce soit en hiver ou en été.
Il y a beaucoup de vélos, quand même.
Il y a beaucoup de vélos, donc ça, c'est très encourageant. Je crois que chaque année, il y a 10% de vélos en plus, donc ce qui est assez énorme. Il y a des industries, il y a le chauffage urbain, il y a encore beaucoup de véhicules, malheureusement. Il y a un chiffre assez frappant, c'est que 60% des déplacements de 3 km en ville se font en voiture, ce qui est assez aberrant. Parce qu'en vélo, ça se fait en 10 minutes. On a un réseau de transport en commun hyper étoffé. On voit qu'il y a quand même une grosse marge d'amélioration à ce niveau-là.
C'est bien.
Oui, voilà. Mais il faut, parce que c'est vrai qu'on ne respire pas non plus un air très pur et très sain. Donc, si on pouvait tous se mettre au vélo et abandonner la voiture déjà, ça serait un premier pas. Et bon, je ne veux pas non plus dire que nous, à l'échelle individuelle, on doit faire tous les efforts, parce que bien sûr il y a une part aussi de la pollution qui est due comme je disais aux industries, au chauffage, etc. Mais bon, on peut quand même faire changer un peu les choses.
Oui, et c'est en soutenant les commerces locaux de proximité qu'on permet aussi à tous les habitants du quartier de ne plus prendre leur voiture.
Ouais, tout à fait.
Parce que le problème aussi, si les gens prennent leur voiture, c'est parce qu'il y a de grandes surfaces qui se sont développées en périphérie des villes et Lyon échappe à la règle. Nous, on est arrivés en voiture hier, c'est facile à constater. Et c'est vrai que si les habitants ne font pas l'effort d'aller chez les petits commerçants de quartier, les épiceries, ben forcément, ça se répercute aussi sur la pollution. Alors, je vais te poser une question très difficile, surtout que vous allez bientôt publier votre guide. Pour les auditeurs qui ne viennent pas de la région lyonnaise, est-ce que tu as peut-être 2-3 adresses, 2-3 endroits à conseiller ?
Alors, des adresses que j'apprécie à Lyon, ah, il y en a tellement.
J'imagine.
Alors, moi, j'aime beaucoup une boutique qui s'appelle Les Curieux, un cordelier. Qui est une boutique qui propose à la fois des vêtements, des cosmétiques, de la décoration. Il y a aussi un salon de coiffure. Enfin, il y a plein de choses. Ils sont hyper engagés et c'est très très sympa. J'aime aller chez My Petite Factory par exemple, qui est un café coffee shop avec plein de bonnes choses à manger et à boire. Donc il y a deux adresses, une en Presqu'île et puis une dans le 7e arrondissement.
Un lieu, est-ce que tu as un lieu culturel aussi que tu recommandes ? Est-ce qu'il y a des endroits où les visiteurs peuvent se rendre pour obtenir un peu plus d'infos ?
Alors, il y a un lieu dans lequel on a fait quelques événements, on va dire qui est un peu plus institutionnel, qui est la Maison de l'Environnement, dans le 7e arrondissement, qui dispose d'une médiathèque très fournie, en fait, avec plein d'ouvrages sur tous les sujets liés à l'écologie. Donc, pour les personnes qui voudraient en emprunter, je conseille d'y aller. J'ai tellement de lieux qui me viennent en tête, là.
Non, mais c'est déjà très bien d'avoir réussi à en choisir 3. C'est déjà très, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Je pense qu'on a fait un bon tour. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site internet. C'est www.thegreenergood.fr. On sera ravis aussi d'échanger avec vous si vous voulez passer nous voir à notre local ou lors d'événements.
Et votre prochain festival alors ?
Et notre prochain festival, il a lieu les 3 et 4 octobre 2020 au château de Montchat, dans le 3e arrondissement, avec une belle programmation qu'on est en train de construire.
Beaucoup d'exposants, de tables rondes ?
Tout à fait. Donc exposants, tables rondes, la thématique de notre festival. Alors, le festival reste vraiment multithématique. On parle à chaque fois de tout, de vêtements, cosmétiques, alimentation. On parle même de low-tech, de numérique, de finance. Enfin, on aborde vraiment tous les sujets. Mais là, on va probablement faire un focus sur l'alimentation.
Et est-ce que l'entrée est gratuite ? On n'a pas mentionné ça.
L'entrée est gratuite. Après, pour certaines conférences et certains ateliers, on demande un petit prix. Voilà, parce qu'il y a des ateliers pratiques aussi avec des ingrédients, des ateliers cuisine, etc. Donc, on demande un petit prix, mais qui est très accessible à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à faire un tour.
Super. Eh bien, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de t'avoir reçue au micro. Et puis, à très bientôt.
Merci. À bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Afin de supporter mon travail, vous pouvez non seulement partager les épisodes avec vos proches, mais également les noter et laisser des commentaires sur la plateforme d'Apple Podcast ou celle d'Ico Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt !